L'Évangile, c'est ce que nous avons voulu annoncer cette semaine. L'Évangile. Mais l'Évangile pour qui ? L'Évangile pour la nouvelle génération. Où j'ai en sous-titre l'Évangile pour des gens pas ordinaires. J'allais marquer extraordinaire. Mais quand on dit extraordinaire, nous, on y attache voilà, des gens supérieurs. Eh bien non, des gens qui sortent de l'ordinaire, qui ne rentrent pas dans le cadre où nous voudrions les mettre. Dimanche dernier, je vous ai ramené à une date postérieure. Là, je vais vous faire voyager un tout petit peu dans le temps, dans l'histoire du pays de France. Nous sommes la nuit du 4 août 1789. Je présume que personne n'y était. Nous sommes quelques mois après la Révolution française, le 14 juillet 1789. Mais suite à cet événement du 14 juillet, se tenait un régime de puissance, un régime de crainte. Et alors que l'Assemblée constituante était en train d'écrire les droits de l'homme et du citoyen, plusieurs personnes ont dit « mais il faut que quelque chose soit destitué, les privilèges ». Et c'est à partir du 4 août 1789, ça a été aboli qu'un an plus tard, on a aboli les privilèges. Abolir les privilèges, c'est-à-dire c'est ne plus permettre à ceux qui avaient l'autorité de prendre des impôts, de soumettre et de rendre méchants. Et moi je pense, frères et sœurs, que le 4 août 1789 ressemble drôlement à ce qui s'est passé à Golgotha. Où le diable, jusqu'à Golgotha, asservissait les hommes et les femmes. Les avait mis sous son autorité, leur demandait des choses. Mais à Golgotha, à la résurrection du Christ, ses droits et ses privilèges sont tombés. Pour permettre aux hommes et aux femmes d'être libres. Libres de suivre Christ. Libres de ne plus obéir à l'adversaire. Et l'évangile de Luc, c'est un évangile comme les autres. Mais un évangile, nous allons le voir ce matin, on va le traverser à grande vitesse. Mais rassurez-vous, je vais vous donner des indices. On l'étudiera le vendredi plutôt. Dans l'évangile de Luc, il y a deux phrases, deux passages où j'ai noté une importance intéressante. Dans Luc chapitre 4, verset 18. C'est la première fois que Jésus parle publiquement. C'est sa première intervention. Il est déjà intervenu dans le privé, dans les familles, à droite, à gauche. Mais là, il parle publiquement. Et voilà ce qu'il dit. C'est sa première intervention, relatée par Luc en tout cas. Luc chapitre 4, verset 18.
Et là, j'ai préparé quelque chose, ça serait bien que je le mette. Alors, un évangile révolutionnaire.
Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, un évangile. C'est ça, hein, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Vous les voyez, les gens pas ordinaires, ceux qui ont le cœur brisé. Les captifs, les aveugles, les opprimés. Voilà un évangile qui commence par annoncer la couleur. Quand on n'a pas de soucis, si on vient nous dire qu'il y a une solution, on dit « mais je n'ai pas de problème ». Ici, l'évangile est ciblé. Les opprimés, ceux qui ont le cœur brisé, les captifs, les aveugles. À la fin de son évangile. Luc nous dit, redira ces paroles de Jésus-Christ aussi, Luc 24, 46, le dernier chapitre. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, que la repentance, le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et c'est intéressant que Matthieu, lui, dans Matthieu 28, il dira, allez, faites de toutes les nations des disciples. Deux témoins qui retranscrivent les dernières paroles de Jésus-Christ d'une façon différente. L'évangile de Luc, il a une importance pas supérieure aux quatre autres. Matthieu, Marc, Jean ont aussi d'importance. Mais Luc, c'est le plus long. Luc, c'est celui qui reprend le plus certaines choses. Et j'aimerais juste, sans faire une étude biblique ce matin, vous faire traverser cet évangile pour vous donner envie. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai des évangiles de Luc. Alors, vous l'avez dans votre Bible. Mais moi, je nous donne un petit défi. Dans les 15 jours qui viennent, c'est de lire et d'appréhender l'évangile de Luc. Et peut-être l'avoir en forme plus petite que dans sa Bible. Et de le lire et de le relire. De dire, Seigneur, aide-moi à comprendre combien il est important que cet évangile, je le donne. Que je puisse le communiquer à d'autres. On l'a fait publiquement. Mais qu'on le fasse en cercle plus privé. L'évangile de Luc concernant Jésus-Christ. On va regarder deux aspects de l'évangile. Le premier aspect, c'est Jésus-Christ, bien sûr. L'évangile de Luc, premièrement, établit que Christ est le Messie, annoncé par les prophètes qui se trouvent tout au long de l'Ancien Testament. Il est le Messie. La nouvelle génération n'a pas entendu parler de ces choses-là. Et l'évangile de Luc établit fermement, premièrement, Jésus est le Messie. Deuxième chose que Luc fait, l'évangile de Luc prouve que non seulement Jésus est le Messie, mais que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Messie, mais qu'il est le Fils de Dieu. Comme il le proclame. Troisième chose, l'évangile de Luc confirme que Jésus est tout puissant par rapport à ce qui se trouve dans le monde, face au mal, face à la nature, face à la mort, face à la guérison. Il a le pouvoir aussi de pardonner les péchés. Il a le pouvoir de bénir les gens. Il a le pouvoir de donner la vie éternelle. Il est capable de vaincre la mort. C'est Dieu qui lui donne. Quatrièmement, l'évangile de Luc donne un compte-rendu direct des événements de la vie de Christ, tels qu'ils ont été vécus par des apôtres témoins oculaires. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors voilà. L'évangile, la bonne nouvelle, concerne la bonne nouvelle que Jésus est bien le Messie, qu'il est bien le Fils de Dieu, qu'il est bien tout puissant, qu'il a tout pouvoir. Vous vous rappelez, dernière parole dans Matthieu, et je serai, tout pouvoir m'ont été donné sur le ciel et sur la terre, le ciel et sur la terre, et je serai avec vous tous les jours. Quand on lit un livre ou quand on lit une lettre, on aime bien savoir quel est le contexte. Luc a écrit son évangile. On part toujours de l'idée, une des idées reçues, c'est que les évangiles, voilà, ont été écrits et Paul est arrivé après. Ben, ça ne tient pas trop. Luc a écrit son évangile environ 40 ans. 30 ans. Après le début de l'Église. L'Église qui était au début un mouvement de réforme au sein du judaïsme s'est répandue chez les gentils, chez les non-juifs. Et les non-juifs, l'histoire d'Israël, ils ne l'ont pas. Et c'est pour ça que souvent Luc va expliquer les traditions, va expliquer l'histoire du peuple. Les chrétiens de la nouvelle génération, les nouveaux convertis, absents au début, se posaient bien la question « Qui sommes-nous ?» On parle d'une nouvelle identité, on parle d'une nouvelle nature, mais bâtie sur quoi ? En plus, les Juifs, le peuple élu, le peuple choisi, posaient quelques problèmes aux non-Juifs. Et les non-Juifs se demandaient quelle relation ils pouvaient entretenir. N'est-ce pas un peu l'histoire de notre vie ? Entre nous qui n'étions pas là au début, on n'avait pas toute l'histoire. Cette semaine, on a partagé Jean chapitre 3, verset 16. Verset que nous laissons tous, n'est-ce pas ? Et ce qui était intéressant, j'avais 11 enfants. Il y en avait une. Un enfant. Qui avait déjà entendu Jean 3, 16. Les 10 autres ne savaient même pas ce qu'était une Bible. Et quand j'ai ouvert ma Bible à Jean 3, 16, et je la lisais, et les enfants me disaient, on peut voir nous, on peut lire. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset de base, le verset que nous apprenons, le verset que nous citons, faisons-le lire. Deuxième chose, l'évangile de Luc. Mais qui l'a écrit ? Qui l'a écrit ? Et Luc, le médecin bien-aimé, Colossiens, c'était un ami de Paul. C'est un ami de l'apôtre Paul. Dans Colossiens 4, 14, il dit, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. C'est un ami à lui. Il est aussi rédacteur du livre des Actes. Un ami intime qui rédige l'évangile prononcé par l'apôtre. Souvent, dans le livre des Actes, quand Luc rédigera son écrit, alors que Paul fait des œuvres, il va dire au chapitre 16, verset 10, « Nous avons cherché à nous rendre en Macédoine. » Chapitre 20, verset 6, « Quant à nous, après les jours des pains sans levain, nous avons embarqué à Philippe. » Acte 27, lorsqu'il a été décidé que nous embarquions pour l'Italie, Paul et quelques autres prisonniers, un centurion nommé sur nous. Luc est un associé. Il est celui qui n'a pas vu les choses en direct. Mais il est un associé de ce djihadiste qui vient de se transformer en évangéliste de la première heure. Il est devenu l'ami intime de celui à qui Dieu a donné les clés, le mystère. La clé a été confiée à Pierre, mais Pierre l'a transmise à Paul. Et alors à qui ? À qui ? Est-ce que Luc adresse son évangile ? Un certain Théophile, nous dit l'introduction du livre. L'évidence interne montre que le livre a été écrit aux gentils. À ceux qui sont non-juifs, on dirait aujourd'hui aux vigneusiens, aux gens qui n'ont pas de racines dans l'évangile. Le but du livre, offrir un suivi ordonné après avoir fait des recherches. S'il avait été témoin oculaire, il n'aurait pas eu besoin de faire des recherches. Mais puisqu'il n'a pas été témoin oculaire, il a fait des recherches. C'est un médecin. Et un médecin, ça fait des recherches. Luc chapitre 1, puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des faits qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires, sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie très excellente, Théophile, Et regardez verset 4, pourquoi ? Afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est postérieur aux enseignements reçus. Vous accrochez ? Ce qui est extraordinaire, l'évangile a été annoncé, l'évangile a été vécu, mais il faut un récit. Alors, Luc, Dieu parle à Luc et dit, il faut que tu écrives. L'évangile de Luc, il a des traits très particuliers. La première des choses qu'on peut noter, c'est un évangile de grâce. Une bonne nouvelle de grâce. La grâce universelle, offerte à, comme dit Jean 3,16, tout homme. Offerte à tout homme. La grâce, pas réservée, on a aboli les privilèges. La grâce offerte à tout homme. Et nous sommes la preuve que tout homme. Un évangile du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui met l'accent sur la compassion de Christ à l'égard des pauvres, à l'égard des humbles, à l'égard des exclus. En 1985, un homme a dit « Ça serait intéressant que pendant l'hiver, un seul restaurant puisse servir 2000 à 3000 repas par jour. » L'idée était bizarre, n'est-ce pas ? Michel Colucci a eu l'idée de nourrir 2 à 3 000 personnes pendant la période d'hiver. Ce qui est devenu les Restos du Cœur. Est venu juste de l'idée de quelqu'un qui a dit « ça serait intéressant qu'on puisse nourrir ces gens-là ». Mais malheureusement, c'est juste pendant la période d'hiver. Jésus, lui, il a une solution. Il dit, je ne vous l'offre pas pendant l'hiver, je ne vous l'offre pas pendant l'été, je ne vous l'offre pas pendant l'automne, mais je vous l'offre pour l'éternité. Un évangile de compassion. Un évangile qui s'adresse à la femme pécheresse et qui ne la condamne pas. Un évangile qui s'adresse aux samaritains, aux péagers, aux pécheurs, aux mendiants, aux lépreux, aux malfaiteurs. Vous savez, ce malfaiteur sur la croix. Mais un évangile qui met en avant, troisièmement, un évangile de prière. Cet instrument, cet outil, on l'avait symbolisé cette semaine par un gros téléphone. Et on expliquait aux enfants que pour rester connecté à Dieu, il fallait un téléphone. Nous avons un téléphone direct. On ne nous coupe pas la ligne, il n'y a pas trop d'abonnés en même temps. Trois paraboles sont dans ce livre, sur la prière. Chapitre 11, versets 5 à 8, l'ami de minuit. On ne va pas le lire. Hein. Chapitre 18, verset 1 à 8, le juge inique. Chapitre 18, 9 à 14, le pharisien et le publicain. Mais aussi la prière de Christ. Lors de son baptême, dans le désert, avant de choisir ses disciples, lors de la transfiguration, avant de citer l'oraison dominicale pour Pierre dans le jardin de Gethsémané sur la croix, Jésus était un homme de prière. Combien de temps consacrons-nous à la prière, au dialogue avec notre Dieu ? Pas simplement pour lui présenter nos requêtes, mais pour répondre à sa parole. Parce que finalement, la prière, c'est la réponse à la parole. Quatrièmement, c'est un évangile de joie. Vous savez que c'est un grand cantique, un grand livre de cantiques. L'Ave Maria. Luc chapitre 1, verset 28-33. Les paroles de l'ange à Marie. Le Magnificat. Le cantique de Marie, Luc chapitre 1, verset 46-55. Le Bénédictus, cantique de Zacharie. Vous vous rappelez Zacharie ? Le Gloria in excelsis, les anges. Le Nunc Dimittis, le cantique de Siméon. Tu laisses ton enfant partir en paix. Un évangile de joie, un évangile de louange. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne, alors, et même quand Dieu nous dit des choses des fois un peu surprenantes, le Magnificat. Un évangile de joie, un évangile de louange à ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs, aux aveugles. Un évangile qui honore particulièrement les femmes. La femme joue un rôle prééminent dans le récit de Luc. Au chapitre 1, Marie et Élisabeth. Au chapitre 10, Marie, sa sœur Marthe. Au chapitre 23, les filles de Jérusalem. Au chapitre 2, au chapitre 4, au chapitre 7, au chapitre 18, les veuves. Nos communautés sont souvent le résumé de l'évangile de Luc. Les femmes se laissent toucher par le Christ et sont souvent mises en avant. Un point important dans l'évangile de Luc, dans cette lettre merveilleuse, c'est que la biographie de Christ. Vous savez, on dit que l'évangile, c'est une biographie. Ce n'est pas la biographie de Jésus-Christ, l'évangile de Luc. C'est le moyen que Jésus a choisi pour que nous soyons changés. Et sa biographie est la plus complète dans l'évangile de Luc. Près de la moitié du contenu de ce livre n'apparaît pas dans les trois autres livres. La plupart des déclarations les plus importantes et les faits les plus marquants de sa vie figurent dans cet évangile. Wow. Ça paraît pas, hein ? Un petit livre comme ça, tout petit, qui peut être une bulle de vie. Un moyen de transmettre quelque chose qui va durer l'éternité entière. La pêche miraculeuse, la résurrection du fils de la veuve, les 10 lépreux, la guérison de Malchus. Vous savez, celui à qui Pierre il a tranché l'oreille. Chapitre 22. On lit dans Luc quelque chose d'extraordinaire sur Jésus. Il pleure sur Jérusalem. Il est aussi devant Hérode. Il s'adresse aux malfaiteurs. Alors, ces derniers temps, on essaie de réfléchir, mais pourquoi ? Quelle était la motivation, l'intention de Paul, ou de Luc plutôt, en écrivant son évangile ? Luc cherche, par les détails, c'est une proposition, à montrer l'origine et la motivation de l'œuvre missionnaire. Jésus avait laissé cet ordre. On l'a vu dans Matthieu, on l'a vu dans Luc 24. De répandre l'évangile à toutes les nations. Et en fait, l'œuvre missionnaire est passée du judaïsme au paganisme, à ceux qui n'avaient pas d'arrière-plan. Et en fait, il écrivait pour que les autres, l'accueil que réserve Jésus aux femmes, aux enfants, aux pauvres, soit ancré. Et pour montrer que l'évangile, c'est un évangile qui sauvera toutes les personnes. Son intention, c'est de faire comprendre que personne n'est exclu. Le pauvre, le boiteux, celui qui est dans la rue, celui qu'on n'accueillerait pas à notre table, est invité au banquet du roi. Wow. Mais qu'est-ce qu'il a donc de si particulier cet évangile ? Luc seul est celui qui raconte l'histoire du bon samaritain. Chapitre 10, versets 30 à 37. Il est le seul qui parle de ce banquet où sont invités tous les marginaux. Ceux qui ne voulaient pas venir. Il est celui qui parle du fils prodigue, au chapitre 15, versets 11 à 32. Il est celui qui parle du pauvre Lazare, méprisé par un homme riche, au chapitre 16. Il est celui qui parle du publicain, qui demande et reçoit la miséricorde de Dieu. Il est celui qui nous parle de ce fameux Zachée. Vous savez, qu'est-ce qu'on aimerait avoir un inspecteur des impôts qui, à la fin de l'année, vienne nous rembourser l'argent qu'il nous a pris. Et comme dit une pub récente, c'est un rêve. Non seulement il vient nous le rendre, mais il se repent. Parce qu'il en a trop pris. Luc seul raconte la repentance et le pardon in extremis du brigand sur la croix, au chapitre 23, verset 43. Et Luc est le seul qui parle du pardon accordé aux persécuteurs de Jésus. Waouh ! Ça ne vous donne pas envie de le relire ? De dire, mais j'ai raté tout ça dans l'évangile ! Le Jésus que Luc présente à ses lecteurs est quelqu'un qui accueille des personnes marginalisées, exclues, renvoyées, jugées. L'ennemi, l'étranger, et leur donne, au plus grand chagrin des justes, une place d'honneur au banquet, dans son royaume. Waouh ! Mes amis, nous sommes porteurs de cette bonne nouvelle. Tous ceux qui sont exclus, tous ceux qui se sentent exclus, et peut-être nous nous sentions exclus. Peut-être nous n'avions pas de place dans la société, plus de place dans la société. Plus d'endroit où aller, plus d'endroit où parler, plus d'endroit où écouter. Et Dieu nous a invités à un banquet. Il ne nous a pas invités à un casse-croûte, mes amis. Il ne nous a pas invités à McDonald's, à KFC, non. Il nous a invités aux trois gros, à la tour d'argent. Mais en sa présence. Luc brosse un tableau qui brise les barrières culturelles, sociales, la compassion. Mes amis, Luc nous rappelle ce médecin, nous rappelle combien il est important que l'action que nous avons faite cette semaine ne soit pas une action qui s'arrête là, aujourd'hui. Mais que c'est la mission que Dieu nous a donnée tant que nous serons sur cette terre. La repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Vigneux-sur-Seine. Il est bon de se rappeler. Il est bon de se rappeler que Dieu nous a laissé les évangiles comme récit, non pas une biographie de ce que Jésus a fait, mais de ce que Jésus a commencé à faire avec des hommes et des femmes qui, comme nous, se posaient des questions. Qui sommes-nous ? Hommes nouveaux, nations nouvelles, pensées nouvelles, paroles nouvelles, idées nouvelles. Dans l'Ancien Testament, le livre du Deutéronome, le cinquième livre, a été écrit pour que la nouvelle génération, celle qui avait survécu à tout ça, les parents étaient morts. Et la nouvelle génération est là, et Moïse, avant de mourir, leur raconte, voilà pourquoi vos pères ne sont pas arrivés jusque-là. Et il leur redit la loi. Eh bien, Luc, les évangiles nous redisent l'histoire de Jésus. Pourquoi il est venu ? Comment il a vécu ? Mais comment finalement l'évangile a pu transformer les hommes et les femmes ? Et moi, je veux juste ce matin prier que chacun de nous, nous puissions nous sentir concernés, que cette unité démontrée cette semaine dans l'annonce de l'évangile aux enfants, à la deuxième génération, puisse être quelque chose que nous vivons chaque jour. que toute occasion, au travail, en vacances, en déplacement, Deutéronome 6:6, soit une occasion pour prononcer l'évangile, pour communiquer l'évangile. Et que nous puissions ne pas avoir honte de l'évangile de Christ. C'est Paul qui le dit. Hein. Je n'aurai pas honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance pour qui ? Pour celui qui croit, pour le juif premièrement, puis le grec, le camerounais, le togolais, l'auvergnat, le breton, l'haïtien. Personne n'est délaissé. Quel que soit le tchadien, je vais oublier des nations là, il y en a trop, le mauricien, l'haïtien, tous les pays que nous représentons. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que dans ce petit évangile est prononcée toute l'intention de Dieu. Bien sûr, il ne faut pas le dissocier des restes, hein, il y en a encore 65 autres à lire. Mais ce matin, j'ai voulu juste tirer notre attention sur un. Nous montrer l'aspect précieux de chaque livre, chaque auteur, chaque écrivain que Dieu a choisi. Parce que chaque mot, chaque phrase, chaque détail a son importance. Et je prie que, à la relecture de cet évangile et à l'étude plus approfondie que je l'ai fait ce matin en allant vite, nous puissions prendre conscience de la bénédiction. Et que, ensemble et volontairement, j'aimerais faire cet exercice avec vous. Si vous reprenez Luc 4, 18. Luc 4, 18. J'aimerais qu'on fasse juste un petit exercice de lecture ensemble. Vous l'avez ? Luc 4, 18. Il est à l'écran pour ceux qui n'ont pas de... Sinon, regardez-le dans votre Bible. Et moi, j'aimerais que nous, les chrétiens, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous qui, ce matin, proclamons « Je suis enfant de Dieu », nous puissions dire tous ensemble cette même déclaration que Jésus a prononcée, parce qu'elle est pour nous aussi. On la lit ensemble, versets 18-19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Vous en êtes convaincus ? C'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur, et c'est cette parole qui a transformé l'État d'Israël, qui a transformé tous les pays, pour que aujourd'hui, à Vigne-sur-Seine, aux 177, des hommes et des femmes puissent bénéficier de cet évangile. Alors que Dieu nous encourage, frères et sœurs, à continuer, et que ça ne soit pas une semaine où on va regarder les photos, on va se rappeler des souvenirs, des chants. Et je vais proposer tout à l'heure qu'on en chante un qui a été chanté cette semaine, mais que vraiment ça soit quelque chose qui puisse durer et qui puisse être aussi. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, voilà, j'ai demandé aux enfants d'être sages pendant qu'on prie, voilà. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier pour l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus est bien le Messie, qu'il est bien le Fils de Dieu, qu'il a bien la puissance, qu'il est bien là pour pardonner, qu'il est bien là pour nous assister. Et Seigneur, je veux te remercier de ce que tu viendras aussi nous chercher un jour. En attendant, Seigneur, cet évangile nous a rappelé ce matin la bonne nouvelle que nous avions à partager aux exclus, à partager à ceux qui ne rentrent plus dans aucun domaine, à ceux qui ont le cœur brisé, à ceux qui sont aveugles, pas simplement avec leurs yeux, mais aussi avec leur cœur, à ceux qui ont perdu toute espérance, à ceux qui se sentent rejetés, qui sont rejetés par leur famille, par leurs amis, par la société. Seigneur, si tu n'étais pas venu chercher ces gens-là, nous ne serions pas là ce matin. Alors je veux simplement te louer pour l'effort de la semaine. Mais maintenant, j'aimerais te prier pour chacun de nous, pour que ce mandat, nous le prenions avec sérieux, pour que ce mandat, nous n'en fassions pas le projet d'une équipe, mais le projet de ta famille ici réunie. Que tous ensemble, d'un même esprit, d'une même âme, nous puissions partager l'Évangile avec joie, avec amour, pour que des nombreux hommes, de nombreuses femmes, de nombreux enfants puissent en bénéficier et qu'ainsi il y ait de la joie dans le ciel pour un homme, pour une femme qui acceptera Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.